ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، aujourd'hui on va parler de l'ghusl inshallah. C'est le lavage rituel. Dans l'oura l'arabie, l'ghusl, c'est le fait que l'eau coule sur tout le corps de la personne qui doit être lavée. La première chose dont on va parler, quels sont les actes à cause desquels on doit obligatoirement faire le ghusl. La première des choses, quand quelqu'un a une éjaculation, c'est-à-dire du sperme qui sort, ça demande obligatoirement de faire le ghusl. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran Karim, « وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتْطَهَّرُوا » Et si vous êtes en état d'impureté majeure, alors purifiez-vous. « وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا » Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi que la personne, vous qui avez cru, ne vous rapprochez pas de la prière tant que vous êtes ivre, ni même en état d'impureté majeure, jusqu'à que vous fassiez le lavage rituel, le lavage rituel. Aussi, il est venu dans le hadith sahih rapporté par l'imam muslim et Abu Daoud, sur l'Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, anil Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, innama al-ma'u min al-ma', certes l'eau est à cause de l'eau. C'est une métaphore du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire, l'irtisal bilma, se laver avec de l'eau, si la personne, elle a eu du liquide qui est sorti. Donc c'est une métaphore du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que si quelqu'un a eu une éjaculation, il doit obligatoirement faire le ghusl. Kazalika li qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li Ali radiyallahu anhu qal idha fadhahta al-ma'a faghtasil. Si il lui a dit wa fi lafdhin idha hadafta al-ma'a. Si l'eau, c'est-à-dire al-ma', en arabe ils appellent ça al-ma', l'eau, c'est-à-dire c'est pas l'eau, c'est le liquide que l'homme sort, qui s'appelle le sperme, si ça sort avec fadahta, c'est une notion en arabe, ou alors hadafta, qui veut dire avec shahwa, avec plaisir. Faghtasil, alors lave-toi. Donc c'est pour ça qu'une personne qui a une maladie, qui perd toujours du liquide, il y a des gens comme ça, qui sont malades, ou à cause du froid, ou à cause d'une grande chaleur, ça sort, mais ça sort sans plaisir. Donc ces personnes-là, ils ne sont pas obligés de faire le ghusl. Car en se basant sur ces hadiths, où Allah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Idha fadahta al-ma'a » ou « Idha hadafta al-ma'a faghtasil » Wa kadhalika, Umm Sulaym, la femme de Abi Talha radiallahu anha, est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit « Oh messager d'Allah, Allah n'a pas honte de la vérité. Est-ce que si la femme elle fait un rêve, est-ce qu'elle doit faire le ghusl ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui, si elle voit du liquide. Wa hadha al-hadith akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa huwa hadith sahih. Donc regardez, cette femme qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement en face pour lui demander cette question. Elle lui a dit quoi? Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah il n'a pas honte de la vérité. Dis-moi ya Rasulullah, si une femme elle a ça, est-ce qu'elle fait le ghusl? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui, si elle voit le liquide. Et comme on l'a dit, ce hadith il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Aussi, ce hadith, il prouve que ce n'est pas une condition pour la personne qui a fait un rêve et qui a du liquide qui est sorti, que ce soit sorti biquwa, que ce soit sorti bishahwa, avec plaisir. Il suffit qu'il se réveille et il trouve le liquide bien sûr, c'est-à-dire le liquide concerné. Alors, il doit obligatoirement faire le ghusl. Car il est rapporté dans un hadith aussi, le hadith de Aïcha radiallahu anha, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été demandé pour une personne qui a fait un rêve aussi, qu'une personne, il a trouvé le matin du liquide sur son vêtement, un homme, et il ne se rappelle pas avoir fait un rêve. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il se lave. Et il a dit, et après lui a été demandé, « Anil rajuli yara annahu qad ihtalam, wa la yajidu al-balal, qala la ghusla alayhi. » Il lui a été demandé, ce hadith il est rapporté par Tirmidhi ou Abu Daoud, et c'est un hadith sahih. Il lui a été demandé, ya Rasulallah, une personne, il a fait un rêve, un homme. Il a fait un rêve dans la nuit. Non, il s'est réveillé le matin, il a trouvé du liquide sur son vêtement, mais il ne se rappelle pas avoir fait un rêve. En fait, Sarasim lui a dit, il se lave. Et il lui a dit un autre, il se rappelle avoir rêvé, mais il n'a pas trouvé de liquide sur son vêtement. Il a dit, lui, la rousla ali, il n'a pas de rousla à faire. Quand on parle du rêve, tout le monde comprend, on parle de quel rêve. C'est pas un rêve, il a rêvé, n'importe quel rêve. C'est-à-dire, il a rêvé qu'il a eu un rapport, ou il a rêvé qu'il a eu une sortie de... c'est une éjaculation. Sinon, c'est pas un rêve, il a fait un rêve. Donc, tant qu'il ne trouve pas du liquide sur son vêtement, là, il y a l'ertassil. Mais s'il trouve du liquide sur son vêtement, il y a l'ertassil. Aussi, sur toutes ces questions dont on vient de parler, les hommes et les femmes, ils sont sur le même degré sur ces questions-là, dont on vient de parler. Car il a été prouvé du prophète par les hadiths que même la femme aussi, elle a le mani aussi. Sauf qu'il n'est pas pareil. Aussi, les savants sont tous d'accord, il y a ijma, que si quelqu'un il a le mani qui sort bishahwa avec plaisir, yajibu alayhi al-rusl, que ce soit dans son sommeil ou éveillé. Sauf ce qui a été rapporté de Ibrahim al-Nakhai, mais c'est un khilaf qadim, donc il n'y a pas de problème, inshallah. La deuxième chose pour laquelle on est obligé de faire le rusl, dans l'oral arabia, iltiqa ou khitanay, ça veut dire quand les deux circoncis se rencontrent. Quand les deux sexes se rencontrent. Voilà, kin, ça a un sens encore plus précis en arabe. Khitanay, c'est-à-dire hashafat al-rajul, c'est-à-dire le bout du sexe de l'homme qui rentre complètement dans le sexe de la femme. Alors là, il est obligé de faire le rousl, même si après ça, il a pas eu de rien qui n'est sorti. Il a arrêté. Et vous allez voir l'adilla sur ça, hein, comme il a été rapporté, le hadith Abi Huraira, Ali Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de ces choses-là. Pourquoi? Pour que les gens, ils sachent. Hein. Si la personne, elle est, donc, il a donné une image pour dire que si le bout du sexe de l'homme, il est rentré complètement dans le sexe de la femme, alors, il doit obligatoirement faire le rousl, même s'il n'y a rien qui est sorti. Une personne, elle est venue voir le prophète, alayhi salam, et Aïcha, radiallahu anha, elle était là. Et c'est Aïcha, radiallahu anha, qui rapporte le hadith. Il a dit à Rasulallah, si un homme, il fait l'acte avec sa femme, puis il se retire, est-ce qu'il il doit faire le rousl? Le prophète, sallallahu alayhi salam, a dit, moi et celle qui est présente ici, nous faisons cette chose-là, puis on fait le rousl. Sallallahu alayhi salam. Il faut savoir qu'il y a certains parmi les Sahaba anhum, qui n'étaient pas d'accord avec cette question au début. Il y a eu un ijma', un consensus après pour dire que même si le mani n'est pas sorti, il n'y a pas eu de liquide qui est sorti, le rousl est obligatoire. Mais certains Sahaba avaient une autre parole auparavant, comme Uthman ibn Affan. Et il a dit, je l'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, tant que la personne elle n'a rien qui est sorti comme liquide, il ne fait pas le rousl, il fait juste l'eau d'eau. Mais il a été rapporté dans d'autres hadiths sahiha que la plupart de ces sahaba ils sont revenus sur leurs paroles, ils ont changé d'avis quand ils ont connu les hadiths qui ont été rapportés du prophète alayhi salat wa salam. Donc là il y a des questions dont on va parler qui sont nécessaires. Donc si le sexe de l'homme touche le sexe de la femme sans pénétration, il n'y a pas de rousl à faire, ni pour l'homme ni pour la femme. Il a été demandé à Ibrahim al-Nakhai, un grand savant parmi les pieux prédécesseurs, rahimahullah. Donc il lui a demandé, une personne qui n'a pas pénétré sa femme, puis il a eu le liquide qui est sorti. Il a dit, lui il fait le rousl, elle non. Mais elle lave juste l'endroit qui a été touché. Et même al-Nawawi, rahimahullah, il rapporte une parole dans ce sens-là, que la plupart des savants sont de cet avis-là. Une autre question, si l'homme et la femme font des rapports, puis, quand la femme elle a fait le rousl, elle a du liquide de l'homme qui ressort de ses parties. Est-ce qu'elle doit refaire le rousl? Non. Il lui suffit de refaire le wudu. C'est tout. Il a été rapporté que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit que la femme, elle n'a pas le droit de se refuser à son mari, même s'il n'y a pas d'eau pour faire le rousl. Par exemple, une femme, elle dit, ah non, je ne peux pas, parce qu'après, il n'y a pas d'eau pour faire le rousl. Elle ne doit pas se refuser à lui. Ils font l'acte, après, elle fera tayammum. La troisième et la quatrième chose qui demande de faire le rousl, c'est les règles. C'est quand une femme, elle finit sa période de règles, ou bien de nifas. Un nifas, c'est les lochis. C'est après un accouchement. Les femmes ont des coulées de sang qui peuvent durer plus ou moins longtemps. C'est pas obligatoirement, comme certains croient, 40 jours. Même quand elle a plus de sang, elle fait pas salat pendant 40 jours. C'est faux, ça. Si ça dure qu'un jour, au bout d'un jour, elle doit faire le roussel, elle reprend la prière. Mais 40 jours, c'est le maximum. Après 40 jours, même si elle a encore du sang, elle fait le roussel, elle met quelque chose pour être protégée et elle fait salat. Parce que ça s'appelle dam al-istihada. C'est la, ce sang, c'est pour, c'est maladif. C'est plus les lochis. Le maximum du temps des lochis, de nifas, c'est 40 jours. Ça veut pas dire que si avant les 40 jours, elle a plus de sang, elle continue à attendre 40 jours. Beaucoup, ils font ça. Combien de femmes, après avoir accouché, elles sont fatiguées, elles prennent l'habitude de pas faire salat, après elles ne font plus salat. Après, il lui faut 6 mois, 1 an, ou là, je ne sais combien de temps pour reprendre salat. Il y a des signes pour reconnaître le sang des règles et le sang de la maladie. Le sang des règles, il est épais. Le sang maladif, il est pas épais. Il est comme le sang qui coule dans tes veines. Le sang des règles, il est vers le noir. Le sang de la maladie, il est vers le rouge. Il est comme le sang qui coule dans tes veines. Le sang des règles, il sent mauvais. Le sang maladif, il sent pas mauvais. Donc ça, c'est des signes pour reconnaître. Les femmes, elles connaissent ça. Pour une femme déréglée. Pour une femme réglée, qui a ses règles constamment à des moments précis, et que ça se continue, ça dépasse pas une période précise, elle se pose pas de questions. Quand elle a ses règles, elle ne prie pas. Quand elle n'a pas ses règles, elle fait le
roussel. Une des causes pour lesquelles il est obligatoire de faire le roussel, c'est l'islam du mécréant. Et les savants ont divergé sur l'obligation pour un mécréant, quand il entre en islam, de se purifier ou non. Le premier avis, c'est que c'est une obligation pour tous les mécréants dans tous les cas. Et c'est l'avis de l'imam Ahmed, Malik et Abi Thawr ibn Hazm. Et c'est l'avis qu'a choisi Ibn al-Munzir et al-Khattabi. Ils se sont basés sur le hadith rapporté par Abu Dawud et Tirmidhi al-Nasa'i qui est sahih. Le hadith de Qays ibn Asim. Quand il est entré en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de se laver avec de l'eau et du jujubier. Et la base, c'est que quand il lui donne l'ordre à l'impératif, c'est que c'est obligatoire. Et dans le hadith de Abu Huraira, dans l'islam de Thumama ibn Athal, où la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Emmenez-le dans un jardin ou dans la palmeraie d'un tel et ordonnez-lui de se laver », rapporté par Imam Ahmed ibn Khuzaymah. De même, l'islam de Usayd ibn Hudayr, quand il a demandé à Mus'ab ibn Umayr et As'ad ibn Zurara « Comment vous faites quand vous voulez entrer dans cette religion ?» Ils ont dit « Tu te laves, tu te purifies. » Et tu purifies tes vêtements et tu attestes l'attestation de vérité, puis tu pries. Ce hadith a une chaîne de transmission authentique. Il a été rapporté par At-Tabarani dans At-Tarikh et Ibn Hisham dans As-Sira. Le deuxième avis, c'est que ceci est recommandé et non obligatoire. Ça a été rapporté de l'imam Shafi'i et chez Al-Hanafiyya. Et le troisième avis, c'est que ce n'est pas obligatoire, mais ce qui paraît le plus juste, c'est le premier avis. C'est que c'est obligatoire dans tous les cas, à un mécréant, quand il entre en islam, de faire le roussel. Un autre cas où il est demandé de faire le roussel, c'est la prière du Jumu'ah, la prière du vendredi. Donc concernant le roussel pour la prière du vendredi, une partie des savants voit que c'est une obligation, et d'autres voient que c'est recommandé. Parmi ceux qui voient que c'est une obligation, il y a certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Huraira, Ammar ibn Yasir, Abu Sa'id al-Khudri, al-Hassan. Et c'est une version de l'imam Malik, et c'est l'avis de Ahmed, c'est le madhab de Ahl al-Zahir. C'est l'avis de Zahiri et d'Ibn Hazm. Ils sont basés sur plusieurs hadiths, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, comme dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, le lavage rituel du jour du vendredi est une obligation pour toute personne pubère. Le hadith d'Ibn Omar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vient parmi vous au Jumu'ah, qu'il se lave. Le hadith aussi d'Abi Huraira, apporté tout cela par Bukhari et Muslim, celui qui vient au Jumu'ah, qu'il se lave. Et le hadith de Thauban, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un devoir pour tout musulman de faire le siwak, de se laver pour le jour du Jumu'ah et de se parfumer, parfum de sa famille s'il en a. Donc ce hadith de Thauban, il est rapporté par l'imam Ahmed, il est sahih. Le hadith de Hafsa, rapporté par Abu Dawud et Nasa'i et Ahmed, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne pubère qui va au Jumu'ah il doit se laver. Et selon Ibn Omar, il a dit, on a été ordonné de se laver le jour du Jumu'ah. Rapporté par Abu Bakr al-Marwazi dans son livre Al-Jumu'ah wa Fadluha, avec une chaîne de transmission acceptable. Alors que la majorité des savants ont dit que se laver pour le jour du Jumu'ah est une recommandation et non une obligation. Et parmi eux, les Sahaba, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas et les autres savants, parmi les imams des Madahib, qui ne sont pas de l'avis de l'obligation. Et ils se sont basés sur le hadith de Samura ibn Jundub, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait ses ablutions le jour du Jumu'ah, c'est une bonne chose. Et celui qui fait le rousl, les grandes ablutions, ceci est meilleur. Ce hadith, il y a eu divergence sur le fait de le juger acceptable, bon ou faible. De même, le hadith de Abu Huraira, rapporté par Muslim et Tirmidhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait les ablutions de la meilleure des manières, puis qui vient au Jumu'ah et qui écoute, Allah lui pardonne entre ce Jumu'ah et celui d'avant, et 3 jours en plus. Ce hadith, ils ont dit, si le rousl était obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne serait pas suffi de citer les ablutions. Et Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, a répondu à cela en disant qu'il y avait d'autres versions de ce hadith qui viennent appuyer le fait que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la personne qui a déjà fait le rousl dans la journée du Jumu'ah, puis il perd les ablutions et il fait que les petites ablutions, puis il va au Jumu'ah. En se basant sur tout cela, on dit que c'est beaucoup plus sûr, et les avis de ceux qui ont dit que le rousl du Jumu'ah a été obligatoire sont plus nombreux, plus authentiques, et c'est la sécurité dans l'islam de prendre l'avis, inshallah, qui paraît quand même le plus juste, qui est en même temps ce qui libère la responsabilité de la personne de faire le rousl du Jumu'ah obligatoirement pour celui qui s'y rend. Bien sûr, nous parlons ici des hommes pubères qui sont dans l'obligation de faire le Jumu'ah. L'autre moment où il est obligatoire de faire le rousl, c'est quand la personne est morte. C'est-à-dire, cela devient obligatoire pour les vivants de le laver. Cela devient obligatoire pour les vivants de le laver. Nous allons parler à présent des lavages rituels recommandés. Premièrement, le lavage rituel pour les deux fêtes, la fête du sacrifice et la fête de la rupture. Comme ceci a été rapporté de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et de Ibn Omar. Se laver après un évanouissement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, comme ça a été rapporté dans le Bukhari et Muslim. Le fait de se laver quand on se met en état de sacralisation pour le hajj ou la umrah, donc de faire le lavage rituel, le rousl, pour ces deux moments-là, comme il a été rapporté dans le hadith rapporté par Tirmidhi, Zayd ibn Thabit a dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est lavé pour entrer en état de sacralisation. Se laver pour entrer à la Mecque. Car il fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il voulait rentrer à la Mecque, qu'il se reposait la nuit à Dhi Tawa, puis quand il se réveillait, il faisait le lavage rituel et entrait à la Mecque de plein jour pour faire son pèlerinage, pour faire son tawaf, comme ça a été rapporté dans le Bukhari et Muslim. Le fait de se laver après chaque coït, chaque acte sexuel, que ce soit avec la même épouse ou quelqu'un qui a plusieurs épouses, comme ceci a été rapporté dans le hadith de Abu Dawud et Ibn Majah, qui est un hadith acceptable, où Abi Rafi' a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une nuit, a été voir chacune de ses épouses et il se lavait après chaque rapport. Il a dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, pourquoi ne te laves-tu pas une seule fois? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceci est plus pur et meilleur. Se laver après avoir lavé un mort, pour ceux qui voient que le hadith est authentique. Se laver, faire le lavage rituel pour chaque prière obligatoire pour la femme qui est atteinte de métrorragie. Ceci est préférable et non pas obligatoire. La condition de validité du rousl, du lavage rituel, est l'intention. l'intention de lever l'état d'impureté majeure ou l'intention de se purifier de la purification majeure. Et le pilier nécessaire pour le roussel, pour le lavage rituel, est que l'eau touche tout le corps. La preuve de ceci est dans le hadith sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: « En ce qui me concerne, je prends mes paumes pleines d'eau trois fois et je les verse sur ma tête, puis je verse de l'eau sur tout mon corps. » Ce hadith a été rapporté dans le Bukhari et Muslim de manière résumée, mais cette version est la version de l'imam Ahmad, rahimahumullahu jami'a. Il y a aussi le hadith de Ummu Salama, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de défaire ses nattes, et il lui a dit: « Il te suffit de jeter sur ta tête trois poignées d'eau, puis que tu verses de l'eau sur tout ton corps, alors avec cela tu te seras purifié. » Rapporté par l'imam Muslim et Abu Dawud et Nasa'i et Tirmidhi et Ibn Majah. Donc la personne qui a l'intention de se purifier de la purification majeure et qui verse de l'eau de sa tête aux pieds, l'eau touche tout le corps en entier, alors il a refait l'obligation du roussel. Et son roussel, son lavage rituel sera valide. Et le fait de frotter son corps ou sa peau, le fait de laver la bouche et le nez, tout ceci, selon l'avis le plus juste, sont des actes méritoires du roussel, du lavage rituel ou des grandes ablutions, et non pas des actes obligatoires. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien cité qu'il suffisait à quelqu'un de verser de l'eau sur sa tête et sur son corps pour être pur. Et il n'a pas parlé du fait de laver sa bouche et son nez, ni du fait de frotter. Donc ces hadiths que l'on a cités auparavant montrent bien clairement que les actes obligatoires du roussel, des grandes ablutions, sont la condition de validité qui est l'intention, et le pilier que l'eau touche tout le corps, des pieds à la tête. Et ceci vient appuyer encore plus ce que l'on a dit dans les ablutions, que le fait de faire le madmadat ou l'istinchaq, le fait de laver la bouche et le nez, même dans les petites ablutions, est une sunnah et non pas une obligation. Car si dans le roussel, qui sont les grandes ablutions où on doit encore laver le corps avec plus de détails et que l'eau doit toucher tout le corps, si ceci n'est pas obligatoire pour les grandes ablutions, comment pourrait-on le rendre obligatoire pour les petites ablutions? Et nous avons déjà détaillé ce sujet auparavant. Maintenant que nous avons expliqué ce qui est obligatoire dans les grandes ablutions ou dans le lavage rituel ou le roussel, nous allons parler maintenant de la meilleure manière, de la sunna, dans la manière de faire le roussel, de faire les grandes ablutions. Premièrement, c'est le fait de se laver les mains jusqu'au poignet trois fois avant de les entrer dans le récipient. Deuxièmement, le fait de laver ses parties et tout ce qui a été touché par une nuisance quelconque. Troisièmement, le fait de relaver ses mains après avoir lavé ses parties et de les nettoyer avec du savon ou avec de la terre ou autre, car cela a été rapporté dans le hadith de Maïmouna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tapait la terre avec ses mains puis il les lavait. Puis de faire les petites ablutions au complet, avec les pieds compris, ceci est une sunna et recommandée quand on fait les grandes ablutions, avant de jeter l'eau sur la tête et sur le reste du corps. Et en ce qui concerne les pieds, si l'endroit où on se lave est sale, on peut les relaver à la fin, avant de sortir. Sinon, ce n'est pas nécessaire si on les a déjà lavés dans les ablutions. Il verse de l'eau trois fois sur sa tête jusqu'à que cela atteigne les racines des cheveux. Il commence pour sa tête par le côté droit, puis le gauche, en frottant avec ses doigts les cheveux. Tout ceci car dans le hadith de Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. Est-ce qu'il doit obligatoirement passer les doigts dans sa barbe pour faire pénétrer l'eau vers sa peau? Ceci est préférable et plus sûr. Certains voient que c'est même obligatoire pour être sûr que l'eau atteigne la peau. Puis il verse l'eau sur tout son corps, en commençant par le côté droit, puis le côté gauche. Et il suffit de verser une seule fois de l'eau sur tout le corps, et non pas trois fois ou plus. Concernant le fait de passer la main sur la peau en même temps que l'eau coule, c'est-à-dire frotter avec la main le corps, ceci est préférable selon la majorité des savants, contrairement à Malik et Al-Muzani parmi les Shafi'iyyah. Concernant le lavage rituel de la femme, le ghusl de la femme, il est exactement comme celui de l'homme si ce lavage rituel est après un rapport du fait qu'elle est en état d'impureté rituelle majeure. Par contre, quand elle se lave après sa période de menstrue ou de loshi, il y a certaines choses supplémentaires à faire qui sont recommandées et d'autres qui sont obligatoires. Parmi les choses recommandées, c'est qu'elle se purifie avec du savon, avec tout ce qui peut purifier, qu'elle suive les traces de sang avec un coton où il y a du parfum ou autre, comme ceci a été rapporté dans le hadith de Aïcha où Asma a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné ses recommandations de se laver avec de l'eau et du jujubier et de se purifier et d'exagérer dans la purification et de verser l'eau sur sa tête et de bien frotter et d'exagérer dans la manière de frotter sa tête et ses cheveux, comme ceci a été rapporté dans le hadith rapporté par le Bukhari et muslim. Aussi, elle défait ses nattes. Elle n'est pas dans l'obligation de défaire ses nattes quand elle est en état d'impureté majeure après un rapport ou autre que les menstrues et les lochis. Par contre, pour les menstrues et les lochis, elle doit défaire ses nattes et bien laver ses cheveux et les racines de ses cheveux, comme on l'a bien compris du hadith de Aïcha ou Asma radiallahu anha. Elle demande au prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aussi, il y a le hadith de Aïcha où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de défaire ses nattes pour se laver pour le hajj. De même que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Détache tes cheveux et lave-toi ». Cet autre hadith est avec une chaîne de transmission authentique rapportée par Ibn Majah. Il n'y a aucun mal à se sécher avec une serviette ou autre après avoir fait les ablutions ou les grandes ablutions ou le ghusl. Et le hadith de Maymouna parle de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le ghusl n'est pas une preuve qu'il est détestable de se sécher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a redonné la serviette cette fois-ci, ça veut dire que d'habitude il l'acceptait. Et il s'est séché avec les mains. Il a jeté l'eau en frottant avec ses mains. Donc ceci prouve que se sécher, il n'y a aucun mal en cela. Nous allons parler de quelques règles et quelques questions concernant le ghusl. Premièrement, il n'est pas nécessaire de refaire les petites ablutions après qu'on ait fait le ghusl, après qu'on ait fait les grandes ablutions, à condition que ces grandes ablutions soient des grandes ablutions qui aient été faites pour sortir de l'état d'impureté majeure. À la différence de celui qui fait les grandes ablutions pour le Jumu'ah, pour le vendredi. Celui-là, il ne peut pas se suffire, par exemple, de jeter l'eau sur tout son corps et il sort et il prie. Non, celui qui, pour le Jumu'ah, il fait les grandes ablutions, il doit mettre en intention des grandes ablutions et des petites ablutions. Et il fait, dans ces grandes ablutions, les petites ablutions obligatoirement, s'il veut pouvoir prier après. Ou bien s'il fait juste le ghusl, obligatoire, de manière obligatoire, pour le Jumu'ah, pour le vendredi, et qu'après cela, il veut aller prier, il doit au moins obligatoirement refaire les petites ablutions. S'il n'a pas mis l'intention et il n'a pas fait les petites ablutions pendant le ghusl. Donc ça, c'est spécifique au lavage rituels qui ne sont pas pour sortir de l'état d'impureté majeure. Par contre, tous les lavages rituels pour sortir de l'état d'impureté majeure, que ce soit sortir de l'état de janaba, ou pour une femme qui a ses menstrues ou ses lochis, puis elle se lave, si elle fait tout ce qui est obligatoire dans le lavage rituel, dans le ghusl, dans les grandes ablutions, elle peut prier directement. Ou l'homme peut prier directement après, même s'il n'a pas accompli les petites ablutions dans le ghusl. Pour être plus clair, quelqu'un a eu un rapport avec son épouse. Il se lave bien avec l'intention de se purifier et l'eau touche bien tout le corps, tout simplement. Il ne fait rien d'autre, il ne fait pas les petites ablutions, il ne fait pas les sunnas du ghusl, des grandes ablutions, pendant qu'il se lave. Alors il sort, il est en état d'impureté majeure et mineure, il peut prier directement. De même, la femme. La preuve de cela est le hadith où Aïcha radiallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas les ablutions après qu'il ait fait les grandes ablutions pour sortir de l'état d'impureté majeure. Et dans une autre version, donc cette première version elle est rapportée par Tirmidhi, et An-Nasa'i et Ibn Majah. Dans la deuxième version, qui est rapportée par Abu Daoud et Ahmed, elle dit « Il faisait les grandes ablutions, puis il priait deux unités de prière, et je ne le voyais pas refaire des petites ablutions après qu'il ait fait le rousl, après qu'il ait fait les grandes ablutions. » Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, a dit « Si tu n'as pas touché ton sexe après que tu aies fait les grandes ablutions, que veux-tu de meilleur comme ablution et de plus large et plus pur que le lavage rituel ?» Dans le sens de sa parole, comme l'a rapporté Abdelrazzaq dans le Moussannaf, avec une chaîne de transmission authentique. Si deux causes pour faire le rousl se réunissent, alors il suffit de faire une fois le rousl pour les deux, avec les deux intentions, et ceci est suffisant chez la grande majorité des savants. Il y en a même qui ont rapporté l'ijma', l'unanimité sur cela, bien qu'en réalité, Ibn Hazm a contredit cet avis auparavant, et plus tard, Cheikh l'Albani, rahimahumullah. Donc on va dire la grande majorité des savants voient qu'une seule grande ablution suffit avec les deux intentions. De même, si la femme est en état d'impureté majeure, après un rapport par exemple, ou après avoir éjaculé, puis elle a ses menstrues, alors elle ne sera pas dans l'obligation de faire le rousl avant la fin de ses menstrues. Quand la fin des menstrues arrive, elle fait le rousl pour les deux et c'est suffisant. Si elle veut le faire, il n'y a pas de mal. Mais nous, on parle de l'obligation. Est-ce qu'il lui est obligatoire de le faire? Donc la réponse est non. Ce n'est pas obligatoire. Il est permis à l'homme de se laver avec le reste de ce que la femme a laissé après un lavage. Comme il est permis à l'homme et à la femme de se laver ensemble, comme Aïcha radiallahu anha rapporte dans le hadith sahih, je me lavais, moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le même récipient. Et nous étions, nous deux, en état d'impureté majeure. Donc, il n'y a aucun grief à cela, ce n'est pas détestable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Comme il est permis de se laver tout nu, si on est seul, ou avec son épouse. Il a été rapporté de Moussa alayhi salam et de Ayyub qui se sont lavés tout nus. Donc c'est permis quand on est caché, bien sûr, du regard des autres, ou bien quand on est avec une personne qui a le droit de voir notre nudité et que nous, on a le droit de voir sa nudité. Mais en dehors de ça, il est obligatoire de se cacher du regard des autres pour se laver, comme Maymouna radiallahu anha, elle avait mis un voile pour cacher le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il voulait se laver. Si une personne perd les petites ablutions pendant le rousl, qu'il a un gaz, qu'il urine ou autre, ou qu'il touche son sexe directement, pour ceux qui voient que cela annule les ablutions avec sa main, alors il finit son rousl, il termine son rousl, ses grandes ablutions, son lavage rituel majeur, puis il n'a pas à le refaire. Il aura juste besoin, après cela, de faire les petites ablutions, car il ne sera pas en état d'impureté mineure. Donc, comprenez bien, la personne qui, pendant qu'il fait les grandes ablutions, perd les petites ablutions, fait un acte qui fait perdre les petites ablutions, il n'a pas besoin de recommencer les grandes ablutions, il les termine, mais il sera dans l'obligation de faire les petites ablutions après cela, après avoir perdu ses petites ablutions pendant le rousl, pendant les grandes ablutions. Parmi les points à connaître aussi, c'est qu'il est permis à la personne qui est en état d'impureté majeure de retarder son lavage rituel jusqu'au moment où il est obligatoire de le faire, bien que le mieux et de s'empresser à rester en état de pureté. La preuve de cela, c'est le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, que Abu Huraira radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rencontré dans certaines routes de Médine et il était en état d'impureté majeure. Alors Abu Huraira s'est caché de lui et il a été se laver, faire ses grandes ablutions. Puis il est venu, il a dit: « Où étais-tu, ya Abu Huraira ?» Abu Huraira de répondre: « j'étais en état d'impureté majeure et j'ai détesté m'asseoir avec toi alors que je ne suis pas en état de pureté. » Au prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: « Subhanallah, le musulman n'est jamais impur. » Et Anas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le rapport avec chacune de ses femmes dans une seule nuit et il ne faisait qu'un ghusl, qu'un seul lavage rituel à la fin. On a déjà dit précédemment qu'il était mieux de faire le lavage rituel après chaque rapport, mais il est permis de se suffire d'un seul lavage rituel. Ceci ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se lavait pas, par exemple, les parties, ou ne se purifiait pas, comme il pouvait ne pas le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des spécificités. N'oubliez pas que sa sueur sentait meilleure que le parfum, et que les restes de son corps étaient attrapés par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faut pas vous étonner par ce hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, dans lequel il n'y a aucun doute et aucun mal. Aucun mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes, le plus pur. Même sa sueur, même son crachat et son pur. Et les sahabas se battaient pour l'attraper et chercher la baraka dans ses effets. Car ceci était spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de chercher la bénédiction dans ses effets. Donc il n'y a aucune interdiction à cela, que la personne qui a plusieurs épouses, il fasse le rapport avec une de ses épouses, il va en voir une autre, il fait juste les ablutions, ou il se lave juste les parties, et après il a un rapport avec sa deuxième épouse, puis pareil avec sa troisième, puis pareil avec sa quatrième, puis après cela il ne fait qu'un roussel, une seule fois le lavage rituel, ceci est permis. Comme il est permis aussi à celui qui est en état d'impureté majeure de dormir avant de faire le roussel en faisant les ablutions, les petites ablutions ou en se lavant, ce qui est préférable, bien sûr, sans aucun doute. Et ceci a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand Aïcha radhiyallahu anha a été questionnée sur cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué cela aussi à Omar ibn al-Khattab et en lui disant qu'il te suffit de laver tes parties et de faire les petites ablutions puis dors. Concernant le fait de lire le Coran pour la personne qui est en état d'impureté majeure ou d'entrer à la mosquée, le plus juste et le plus sûr, c'est qu'il n'a pas le droit de le faire. Sauf si, pour lire le Coran par exemple, la personne lit des adhkar, des invocations. Ce n'est pas l'intention de lire et de réciter le Coran. Il récite des invocations qui font partie du Coran. Dans ce cas-là, on les considère comme des invocations et non pas comme la lecture du Coran. Pareil pour la femme qui a ses menstrues. On dira pour la femme qui a ses menstrues que l'affaire est plus large que cela, à la différence de la personne qui est en état d'impureté majeure. Car celui-là, en faisant le roussel, il peut tout de suite être pur pour aller faire ce qu'il a à faire et lire et faire ce qu'il veut. Alors que la femme qui a ses menstrues, ceci n'est pas dans ses mains. Elle va devoir rester 6 jours, 7 jours, 10 jours sans pouvoir être pure. Donc, pour cette femme-là, Wallahu a'lam, s'il y a un besoin, comme le fait qu'elle doit réviser des parties du Coran, comme le fait qu'elle est professeure, elle doit l'enseigner, ou dans ce type de situation, alors elle peut le lire, mais sans toucher le mushaf, sans toucher le Coran directement avec ses mains. Ou bien elle prend des gants, ou bien elle lit dans un mushaf électronique, ou dans le tafsir, ou autre que cela. Wallahu a'lam. Et ça a été rapporté de Abdullah ibn Omar que les femmes qui ont leurs menstrues n'approchent pas les mosquées. On ne parle pas de la personne qui a besoin de passer. Si la femme a besoin de passer juste par la mosquée, ou de donner quelque chose, ou d'entrer et sortir pour un besoin, ou un homme en état d'impureté majeure, pareil, alors il n'y a pas de mal. Mais sinon, il ne reste pas assis à la mosquée, ils ne viennent pas à des cours à la mosquée dans cet état-là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم